Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Une série d'interviews exceptionnelles ce matin sur France Culture au sujet des Européennes. Nous recevons trois têtes de liste aux Européennes. Et tout d'abord, Nathalie Loiseau, bonjour.
Bonjour.
Tête de liste La République En Marche. Nous voici ensemble pour 20 minutes environ en vertu des règles fixées par le CSA. Je suis en compagnie de mon camarade Frédéric Seize.
Bonjour.
Frédéric, Nathalie Loiseau, quelle Europe voulez-vous ?
Une Europe de progrès d'abord. On a oublié ce que c'était que le progrès en Europe, ou en tout cas il se passe parfois sans nous. Une Europe où le progrès technologique ressemble à nos valeurs. Une Europe de progrès social. Trop longtemps on a considéré que l'Europe c'était un marché, que le progrès social c'était pour autre chose ou que c'était pas du tout. Et c'est intenable aujourd'hui. Et puis une Europe qui protège notre planète, une Europe qui soit à l'avant-garde de la lutte contre le dérèglement climatique. Et enfin une Europe de liberté. Ça a l'air évident. On vit en liberté, en démocratie depuis si longtemps maintenant dans notre pays. Ça l'est moins aujourd'hui. Tout à l'heure, on parlait des élections en Espagne. On doit d'abord se réjouir et voir qu'il n'y a pas de fatalité. Les partis qui ont le mieux réussi dans cette élection sont des partis pro-européens. Mais on voit aussi, et on doit toujours voir, la montée de l'extrême droite. Inquiétante, elle n'existait pas en Espagne il y a très peu de temps. Aujourd'hui, elle est présente au nouveau Parlement espagnol. Donc, une Europe de liberté, de progrès et de protection.
Frédéric Seize.
L'extrême droite en Espagne, c'est le parti qui s'appelle Vox. Oui. Vous avez, vous, félicité ce matin le parti Ciudadanos, qui est le parti centriste qui correspondrait grosso modo à En Marche, même si les situations ne sont évidemment pas symétriques. Ce parti Ciudadanos s'est allié avec Vox, avec l'extrême droite, en Andalousie. Est-ce que malgré ça, vous leur maintenez vos félicitations ?
On a eu ce débat avec Ciudadanos à plusieurs reprises, et vous avez, si vous avez vu ce que j'ai écrit ce matin, vu aussi que je mettais en garde contre la montée de l'extrême droite. Pour moi aujourd'hui, il y a un cap qui doit être extrêmement clair. Les progressistes doivent se réunir pour éviter qu'on se retrouve avec les années 30, non pas 2030, mais 1930. Moi, ce que j'ai vu, entendu de Vox pendant sa campagne, c'est inacceptable, intolérable. On a entendu des relents de franquisme, on a entendu une lutte éperdue contre le féminisme en 2019. Bref, c'est vraiment un combat qu'il faut mener.
Mais est-ce que ça n'est pas un épouvantail un peu facile, Nathalie Loiseau, les années 30 ? Après tout, il y a d'autres propositions entre les progressistes et ceux que vous qualifiez de populistes, notamment en France, pour l'élection européenne.
J'ai jamais dit que nous avions le monopole du progressisme. Mais ce que je constate, et depuis des années, c'est que certains de nos opposants traditionnels se sont bouchés les yeux et les oreilles pendant que le populisme ou le nationalisme montait à grande vitesse partout en Europe. Ce que je constate, c'est que encore hier, quand on interroge François-Xavier Bellamy sur la Hongrie, de Viktor Orban sur le Fidesz, son parti, il dit « Bien sûr, nous allons rester alliés avec le Fidesz ». C'est quoi la Hongrie de Viktor Orban ? C'est un pays où les libertés reculent, c'est un pays où l'antisémitisme monte, où le pluralisme de la presse est combattu, où la justice n'est plus indépendante. Ben, je suis désolée, on peut pas fermer les yeux et les oreilles, et on peut pas se dire « On fait comme si on n'avait rien vu ». Alors, bienvenue dans le clan des progressistes pour ceux qui ont envie de combattre ça. Je trouve qu'on a eu trop longtemps une espèce d'indifférence à quelque chose qui va contre nos valeurs. Regardez la Pologne. Regardez ce que Kaczynski a dit il y a deux jours ou trois jours sur les LGBT qui sont une menace pour la Pologne. On va dire que c'est normal ? On va dire que c'est ça l'Union Européenne ? Ben moi je dis non, on combat ça avec virulence.
Frédéric Seize,
vous allez présenter votre programme complet pour les élections européennes le 9 mai, est évidemment une date symbolique pour l'Europe, mais qui fait aussi tard, juste avant le scrutin du 26 mai. Pourquoi attendre autant ? Vous pensez finalement que ce scrutin n'intéresse pas assez les Français ?
Alors, un constat, les Français jusqu'à présent n'étaient pas rentrés dans la campagne. C'était en train de changer, moi je fais le tour de France en permanence, j'étais trois jours en Bretagne en fin de semaine, et c'est en train de changer. Mais jusqu'à présent, les Gilets jaunes, le grand débat, l'incendie de Notre-Dame, c'était des sujets qui parlait fortement aux Français. C'est pas la peine de venir faire une sorte de concurrence qui nous aurait conduit plutôt au silence qu'à autre chose.
Mais c'est une question donc d'organisation médiatique ou c'est le fait que votre programme n'est pas encore prêt ?
Ah, il est tout à fait prêt, il est même imprimé, il est même dans mon sac.
Il dit quoi dans ce cas-là, Nathalie Loiseau ?
Il dit beaucoup de choses qu'on a commencé à expliquer, par exemple sur les questions liées à l'état de droit. On en était là de notre conversation.
Mais alors ça, c'est quand même étonnant que vous insistiez là-dessus parce qu'aujourd'hui en France, comme vous le savez, il y a eu une polémique sur les violences à l'encontre des manifestants. Sur ouais. le fait que l'état de droit aujourd'hui, eh bien, il a été quelque peu malmené par ce projet de loi qui vise, paraît-il, à diminuer le nombre de casseurs dans les manifestations, mais va limiter aussi les libertés publiques, Nathalie Loiseau.
Écoutez, nous avons la chance d'être dans un pays particulièrement attaché à l'état de droit. Ce projet de loi que vous citez, c'est le président de la République lui-même qui l'a transmis au Conseil constitutionnel. Le président de la République est le garant de la Constitution, mais aussi des libertés. De lui-même, il a pris cette initiative. Et puis, rappelons-nous quand même, tous les blessés sont à déplorer. Mais rappelons-nous qu'on parle de manifestations qui elles-mêmes étaient violentes, notamment violentes contre les policiers. Il n'y a jamais eu de violence.
Il y a eu des journalistes touchés, il y a eu des gens qui n'étaient pas violents dans ces manifestations et qui, là aussi, ont eu à subir
les assauts
des forces de l'ordre.
Oui, mais c'est la première fois, ces manifestations sont là, sont la première fois où ces violences ont eu lieu. Regardez les manifestations sur le climat tous les vendredis, vous n'avez jamais ce genre de sujet. Regardez les manifestations sur les violences faites aux femmes, vous n'avez jamais ce genre de dérapage. Et ce que je constate samedi après samedi, c'est que quand des violences sont commises par certains qui enfilent un gilet jaune, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. On voit bien que certains de l'ultra-droite et de l'extrême-gauche jouent avec ça et avec une espèce de désordre. Pour piller, pour casser, pour dire aux flics « suicidez-vous », autour d'eux, personne ne les arrête. Il y a un sujet majeur qui est que ce mouvement aujourd'hui tourne en rond.
Justement, d'ailleurs, vos meetings sont régulièrement perturbés, plus ou moins violemment par des gilets jaunes.
Parfois violemment, oui.
Voilà, exactement, mais pas toujours. Des fois, c'est aussi une forme de confrontation démocratique. Ça vous agace ou bien vous avez pris votre parti, finalement, d'être assimilé, évidemment, à l'impopularité d'Emmanuel Macron ?
Alors, d'une part, quand c'est pour discuter et exprimer des désaccords, mais aussi dans un esprit républicain, j'ai aucun problème. Avant-hier, en Bretagne, une poignée de gilets jaunes sont venus devant la mairie où je rencontrais un maire dont la mairie avait elle-même été taguée, il s'était fait traiter de collabo. Donc j'étais allée le voir, une poignée de gilets jaunes était là, on a discuté une demi-heure, ça s'est très bien passé. On est d'accord, pas d'accord, c'était respectueux de la vie de chacun, et de la vie de chacun, tout le monde a trouvé la discussion intéressante et constructive. Aucun problème, c'est la démocratie, je suis pas là pour voir que des gens qui pensent comme moi. En revanche, quand à Orléans, une semaine plus tôt, une cinquantaine de gros bras ont empêché des gens d'entrer dans une salle, c'était des jeunes qui voulaient discuter de l'avenir de l'Europe. Ça, c'est inacceptable, c'est aller contre la liberté de réunion, c'est aller contre la liberté d'expression, c'est aller contre la République, et ça m'inquiète.
Nathalie Loiseau, vous avez dirigé l'ENA et le président de la République, alors avec un projet encore flou, veut non pas supprimer l'ENA, mais en tout cas fondre cette école dans une école qui engloberait finalement différentes préparations au métier de l'administration. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, moi j'ai en effet été directrice de l'ENA sans être ancienne élève de l'ENA. Je sais ce que j'ai pu faire. J'ai pu réformer les concours d'entrée, j'ai pu réformer la scolarité, j'ai pu réformer le contact des élèves de l'ENA avec la vraie vie, si j'ose dire.
Alors qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire ?
Et je sais ce à quoi je me suis heurtée, c'est-à-dire énormément de conservatisme de la haute administration, celle que j'avais en face de moi. Disons les choses, j'ai pas été accueillie avec des fleurs en étant pas ancienne élève de l'ENA, femme et moins de 50 ans. J'avais l'impression d'être une Romanichel quand je suis arrivée à la tête de l'ENA. C'est pas très grave, ça m'a pas empêchée d'avancer. Mais sur... l'égalité des chances. J'ai dirigé une classe prépa égalité des chances, très bien. J'arrivais à faire entrer une poignée d'élèves tous les ans dans les écoles de service public. Parce que notre système scolaire et universitaire, c'est plus un ascenseur social, c'est un entonnoir. Donc moi, quand j'arrivais 5 ans après le bac, j'avais plus de diversité dans ceux qui présentaient le concours de l'ENA. Ça, c'était un vrai sujet. Puis l'autre vrai sujet, c'est les carrières de ceux qui sortent de l'ENA. Est-ce qu'il doit y avoir, dès 25 ans, l'aristocratie d'un côté, le tiers-état de l'autre? Je crois pas. Et pendant que j'ai été
personne
directrice de l'ENA,
mais...
j'ai pas été portée par une volonté politique forte au niveau du gouvernement et du président. Au contraire, on a multiplié les missions qu'on m'a confiées et on a baissé le budget tous les ans. J'avais de plus en plus d'élèves, de plus en plus de missions, de moins en moins de budget. Il était temps qu'un chef d'État, en particulier un inspecteur des finances, puisse dire ce qu'il pense de l'administration et comment il faut la réformer. Il a confié une mission à Frédéric Thiriez. Il faudra que Frédéric Thiriez prenne le temps d'aller voir tout le monde. Et c'est pas une histoire qui concerne que l'ENA. Si vous regardez Polytechnique, si vous regardez Normale Sup, si vous regardez toutes ces écoles de l'excellence et de la méritocratie française. L'excellence, c'est pas un gros mot. La méritocratie, c'est pas un gros mot. Mais faut jamais se dire qu'on est au point d'arrivée quand parfois on est qu'au point de départ.
Si on suit le fil de votre CV, vous avez donc dirigé l'ENA, vous avez ensuite été, ministre d'Emmanuel Macron, des Affaires européennes. Passer de ministre des Affaires européennes à eurodéputé, peut-être, évidemment, si vous accédez au Parlement, il y a assez peu de doutes. Est-ce que vous n'allez pas avoir beaucoup moins de pouvoir pour peser? C'est un verbe peser que vous utilisez beaucoup.
D'abord, je suis entrée en politique pour essayer de changer la donne, en particulier sur les questions européennes. C'est pour ça que j'ai rejoint Emmanuel Macron dans la campagne européenne. C'est un engagement très ancien de ma part.
Mais là, vous serez dilué parmi près de 800 parlementaires.
Écoutez, d'abord, c'est pas une question d'ego personnel. Ce que je souhaite, c'est pouvoir former un groupe qui va peser, en effet, au sein du Parlement européen, pour sortir ce Parlement européen d'une sorte d'inertie qui a consisté à une co-gestion entre la droite traditionnelle et la gauche traditionnelle pendant très très longtemps. Aujourd'hui, les enjeux sont tels, on a parlé de l'urgence écologique tout à l'heure, on peut plus vivre au rythme de l'Europe telle qu'elle s'est habituée. C'est-à-dire qu'en Europe, quand une décision est prise, en moins de 2 ans, c'est la vitesse de la lumière. On n'a plus le temps. Moi, ce que je veux, c'est participer à la création d'un groupe nouveau, central, qui fasse la différence parce qu'il sera incontournable pour créer une majorité.
Mais sur les pouvoirs du Parlement européen. Alors au début, le Parlement européen, c'était un organe quasiment symbolique au niveau de l'Europe. Il a gagné peu à peu du pouvoir ces dernières années.
Oui, mais merci de le dire parce que je crois que beaucoup de Français ne s'en sont pas aperçus malheureusement.
Ça ne va pas si loin que ça malheureusement puisqu'il peut amender, il peut voter les textes, mais il n'a pas le pouvoir d'initiative sur les textes, sur les lois, sur les directives. Est-ce que vous voudriez, vous, aller plus loin? Est-ce que parmi vos propositions, vous souhaiteriez que le Parlement européen puisse avoir la capacité d'initiative?
Bien sûr.
Comme c'est le cas par exemple en France. Le Parlement français peut proposer ses lois.
Un vrai Parlement doit avoir un pouvoir d'initiative et ne pas attendre qu'on lui soumette un texte pour pouvoir dire ça ne va ou ça ne va pas. Donc pouvoir d'initiative, oui. Puis en matière budgétaire, aujourd'hui, le Parlement européen vote les dépenses, mais pas les recettes. C'est un drôle de Parlement, il faut aller plus loin. Les décisions ne sont pas prises par la Commission en Europe, elles sont prises par le Conseil, c'est-à-dire les représentants, les chefs d'État et de gouvernement et leurs ministres, et par le Parlement européen. Dans ce cas-là, il faut que le Parlement européen ait des vrais pouvoirs. C'est évidemment une proposition que nous portons.
Mais ça veut dire changer le traité de Lisbonne.
Mais ça veut dire que ceux qui sont au Parlement européen jusqu'à maintenant se sont habitués à ça. Nous n'avons pas de députés européens, nous arrivons. Changer les traités, ça n'est ni un totem ni un tabou. C'est pas un objectif en soi. Ceux qui disent, si on change pas les traités, on va se rouler par terre, c'est-à-dire la France insoumise. D'abord, changer les traités pour changer les traités, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis se rouler par terre quand on est un seul parmi 27, en général, ça marche pas très bien. Mais en revanche, quand il y a une nécessité, se dire que les traités ne sont pas gravés dans le marbre. Heureusement qu'on n'en est pas resté à la fin des années 50. Heureusement qu'on a réussi à faire l'euro. Heureusement qu'on a réussi à faire Schengen. Heureusement qu'on n'est pas resté au marché commun et à la CE du début.
Nathalie Loiseau, vous êtes présentée en 1984 sur une liste alors que vous étiez étudiante à Sciences Po, une liste d'extrême droite, l'Union des étudiants de droite. Depuis, et vous avez confessé, je vous cite, une erreur de jeunesse. On a tous eu 20 ans. Alors du coup, dans le JDD, ce week-end, on s'intéressait à ce que faisaient les candidats à 20 ans. Beaucoup ont changé d'avis, sauf Frédéric Saïs, qui a toujours 20 ans. Qu'est-ce que vous lisiez à 20 ans? Quelles étaient vos opinions politiques, du coup, puisque vous n'étiez pas d'extrême droite? Dites-vous.
Alors je n'ai jamais été d'extrême droite, ni à 20 ans, ni plus tard, et mon combat politique, c'est le combat contre l'extrême droite. C'est-à-dire au moment où je mène ce combat, qu'on m'attaque, ça veut dire que quelque part on dérange. Bon, et tout ça est sorti de minutes, je vous laisse...
Mais les faits sont vrais.
Je n'ai jamais été d'extrême droite. Cette liste à laquelle je regrette d'avoir participé, puisque certains sur cette liste étaient d'extrême droite. J'étais gaulliste, la belle affaire, et il y avait des gaullistes sur cette liste. J'étais... de la droite modérée, mon père est résistant, j'étais gaulliste. J'ai toujours beaucoup d'admiration pour le général de Gaulle, même si aujourd'hui je regarde plus vers l'avenir que vers le passé. Et j'étais pro-européenne, j'étais dans une association de jeunes étudiants qui militaient pour ce qui est devenu Erasmus. On est allé jusqu'à tirer la manche de François Mitterrand à l'époque pour lui dire qu'il fallait soutenir un projet d'échange étudiant, ce qui est devenu Erasmus. J'étais le contraire de ce que l'extrême droite...
Parce qu'apparemment, il y avait beaucoup de membres du GUD, le groupe Union Défense, dans cette liste, c'est-à-dire pas précisément des gaullistes, voire des anti-gaullistes.
Alors, il y avait des gaullistes aussi. L'idée de cette liste, telle qu'elle avait été vendue...
Qui étaient les gaullistes
En ce qui me concerne, c'était le cas. Je précise que j'étais en position non éligible et que cette liste, elle a vécu, j'en sais rien, 15 jours, le temps d'une élection, où je crois qu'il n'y a eu aucun élu. Ces gens, je ne les ai pas revus.
Non, mais disons que dans nos souvenirs, dans mes souvenirs, ouais. L'extrême droite en 1984, c'était vraiment une extrême droite, vous voyez, quasiment nazionne.
Elle
on avait
pas,
à lutter
elle...
contre
cette
elle
liste,
quand
elle
on était étudiant.
Pas le GUD. Cette liste, elle s'appelait l'Union des étudiants de droite et elle avait comme motto, comme slogan, de réunir, comme mot d'ordre, merci, il est tôt, vous êtes habitué à vous lever aussitôt, moi aussi, mais je parle pas forcément à la radio tous les jours, elle avait comme mot d'ordre de le pluralisme. On m'a dit pluralisme et il n'y a pas de filles qui candidatent. J'ai dit oui, à l'époque j'étais à Langzhou les trois quarts de mon temps, j'apprenais le chinois, j'étais à mille lieues. Alors je l'ai dit, c'est une bêtise, j'ai même dit que c'était une connerie. Qui n'a pas fait de connerie à 20 ans? Vous peut-être, mais bon, ça n'est pas le sujet de ce matin.
On en a tous fait des bêtises et on a tous varié, évidemment, Nathalie Loiseau. Mmh. Vous êtes restée une femme de droite?
Écoutez, aujourd'hui, ce qui compte pour moi, c'est le progressisme. Je viens de la droite modérée, tout le monde le sait, je m'en suis jamais cachée, j'ai travaillé avec Alain Juppé, j'ai une admiration.
Non, mais c'est pour savoir si La République En Marche est un parti de droite.
Mais aujourd'hui, ça n'a plus aucune importance. Aujourd'hui, les enjeux auxquels on est confronté, remettre des vieilles étiquettes. Je sais que certains en rêvent, parce que certains se disent que c'était plus confortable
qu'est-ce
avant.
Qu'est-ce qu'il y a de gauche dans La République En Marche?
Écoutez, qu'est-ce qu'il y a de gauche chez moi? Déjà, les engagements sociétaux qui font que, parfois, je me suis sentie très très loin de la droite modérée.
J'étais
favorable au mariage pour tous très tôt. C'est ce qui m'a
totalement... Ça, c'est pour vous distinguer de François-Xavier Bellamy, mais...
Non, c'est ce qui m'a totalement fait partir vers Emmanuel Macron. Par exemple, quand François Fillon a été désigné vainqueur de la primaire, pour moi, c'était impossible de me retrouver avec sens commun. C'était impossible. C'était le contraire de ce que je suis.
Frédéric, vous disiez à propos de François-Xavier Bellamy, qui mène donc la liste des Républicains pour ces élections européennes, que on voit assez peu les autres personnalités de sa liste comme s'il les masquait. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ben écoutez, moi j'ai la chance et la fierté d'avoir une liste de candidats avec des hommes, des femmes engagés, qui ont des parcours personnels, politiques ou professionnels, qui ont tous du sens et qui vont apporter quelque chose au Parlement européen. J'ai des écologistes et des agriculteurs qui ont envie de travailler ensemble. J'ai des gens qui ont vécu en entreprise, des gens qui ont été journalistes, c'est pas un gros mot, des gens qui viennent de la droite modérée, du centre, de gauche, des écologistes qui se sont rejoints pour les européennes. Et tout le monde le sait, tout le monde les voit. Il y a déjà eu plus de 100 réunions avec des colistiers à travers la France. Ils s'expriment dans les médias autant que moi. Ce que je vois sur d'autres listes, c'est qu'on voit les têtes de liste et qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, qu'on n'a pas l'air d'avoir envie de les montrer. Chez certains, il y a du recyclage politique. Je vous parlais de François-Xavier Bellamy. Je suis étonnée qu'on ne voit pas Nadine Morano, qu'on ne voit pas Brice Hortefeux, qui sont depuis longtemps au Parlement européen.
Ils travaillent, mais ils sont encore au Parlement européen.
D'abord, le Parlement a fini de siéger, et moi, je les ai très peu vus pendant 2 ans. On ne sait pas très bien quel est leur rapport avec l'Europe. C'est vrai dans d'autres listes aussi. Je trouve que c'est pas prendre les Français très au sérieux, de montrer comme ça, une tête de gondole, et puis, c'est quand même une élection de liste. On part au Parlement européen avec l'ambition d'y faire des choses, pas d'y recaser les gens. Le recyclage, je l'ai déjà dit, je suis pour, mais pas en politique.
Qu'est-ce qui vous distingue, dernière question, Nathalie Loiseau, d'une liste qui se pense également comme progressiste, celle de Raphaël Glucksmann, que l'on va recevoir dans quelques instants? En quoi sont-ils différents de vous?
D'abord, notre capacité à rassembler. Vous avez vu qu'il y a, autour de la liste que je porte, non seulement la majorité présidentielle comme elle existait en 2017, mais d'autres partis qui ont rejoint, les radicaux, Agir. Et puis vous avez Daniel Cohn-Bendit qui nous soutient. Et puis vous avez Pascal Durand qui nous rejoignent. Vous avez, j'étais en Bretagne, une quarantaine de maires qui ne sont pas La République En Marche et qui ont décidé de nous soutenir. C'est le cas de 9 autres grands élus qu'il avait fait dans le journal du dimanche. Je suis partie dans l'île de La Réunion. Les élus de l'île de La Réunion nous ont soutenus alors qu'ils ne sont pas La République En Marche. Il y a une dynamique de rassemblement. Je ne suis pas absolument sûre de constater ça pour Raphaël Glucksmann. Je crois qu'il le déplore lui-même.
Merci Nathalie Loiseau. Dans quelques instants, nous recevrons Raphaël Glucksmann. Vous êtes tête de liste La République En Marche pour ces élections européennes. Seconde tête de liste aux européennes, Raphaël Glucksmann, bonjour. Vous êtes candidat d'Envie d'Europe, né de l'alliance de Place Publique et du Parti Socialiste. On est ensemble pour 15 minutes environ, en vertu des règles fixées par le CSA. Et tout d'abord la question rituelle, quelle Europe voulez-vous ?
Bonjour, moi je veux une Europe qui ne soit pas qu'un marché, qui soit une Europe politique. Je veux une Europe qui fasse de la transformation écologique de nos sociétés sa raison d'être, sa priorité absolue, au-delà de l'austérité, au-delà du dogme du libre-échange. Moi, je veux une Europe qui puisse imposer des normes au commerce international. Je veux une Europe qui sauve les naufragés de la Méditerranée au lieu de les renvoyer aux gardes-côtes libyens, qui les soit les noient, soit les réduisent à l'esclavage. Moi, je veux une Europe qui assume ses principes humanistes et qui assume aussi une défense commune de sortir de l'état d'adolescence, où on se réfugie derrière le parapluie américain, pour enfin construire les moyens de notre autonomie. Moi, je veux une Europe qui résiste à Poutine, à Xi Jinping, à Trump. Moi, je veux une Europe plus forte, en fait.
Frédéric Seitz.
Alors, vous disiez que vous souhaitez que l'Europe ne soit pas simplement un marché. Vous voulez donc devenir eurodéputé. Vous savez que le Parlement européen n'a qu'un rôle consultatif en matière, par exemple, de politique de concurrence. Alors, une fois que vous serez élu... Une fois que vos discours auront été faits, que ferez-vous ?
Il faut un rapport de force et il faut changer ce processus de décision à l'échelle européenne.
C'est-à-dire ?
Le Parlement européen n'a pas assez de pouvoir. Prenez l'exemple, c'est quoi un Parlement en fait dans l'histoire des Parlements ? Les Parlements, ils ont toujours été convoqués pour discuter de l'impôt par exemple. C'est ça le rôle d'un Parlement originellement, c'est lever l'impôt. Et le Parlement européen, bah, c'est pas dans ses prérogatives. Et par ailleurs, le Parlement européen n'a pas la liberté d'initiative, le droit d'initiative. C'est la Commission, en fait, qui prend ce droit-là.
Le Parlement et donc, amende et vote des textes,
bien sûr. Alors,
mais ne les
crée pas. Le Parlement, il a un rôle politique, en réalité. Et pour ça, il faut qu'il assume un rapport de force politique. Et donc, tout dépend de qui va composer ce Parlement. Un, est-ce qu'il y aura des combattants, des gens qui sont prêts à entrer dans ce rapport de force, ou juste des gens qui vont à Bruxelles toucher leur salaire parce qu'ils n'ont pas réussi à être élus sur les listes nationales ? Et deuxièmement, quelle force va dominer ce Parlement ? C'est ça qui est intéressant. C'est que ces élections au Parlement européen, ces élections qui vont nous sortir en fait de cette illusion qui a duré 2 ans, qui dure depuis 2 ans, qui continue, qui veut résumer la politique à un face-à-face en fait entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, entre les libéraux et les nationalistes. Parce que quand on regarde le Parlement européen, eh bien on voit que ce clivage-là n'existe pas. Le clivage qui domine le Parlement européen, c'est encore le clivage gauche-droite. Et l'enjeu de ces élections, c'est de savoir qui, des sociaux-démocrates ou des conservateurs libéraux du Parti Populaire Européen, va être la force dominante du prochain Parlement. Donc j'écoutais, parce que je vous écoute toujours, j'écoutais Madame Loiseau qui disait « Moi, je sais rassembler. Nous, on a une liste qui rassemble à En Marche. » Mais en réalité, à l'échelle européenne, ils savent tout sauf rassembler. Ils sont seuls et ils vont devoir s'allier avec les ultra-libéraux de l'ALDE dans un petit groupe qui ne pèse pas. Donc c'est faux. En France, peut-être, ils sont une force dominante. Mais à l'échelle européenne, eh bien, les forces dominantes, je suis désolé, c'est la gauche et la droite. Et donc c'est un moyen, ces élections, de sortir de ce match qu'on veut nous imposer entre Le Pen et Macron.
Mais Raphaël Glucksmann, on a l'impression qu'au sein de la gauche, c'est précisément la social-démocratie que vous incarnez, sauf erreur de ma part, la social-démocratie qui est en crise.
Bien sûr, mais la social-démocratie, elle a été en crise partout en Europe, parce qu'il n'y avait plus d'horizon de sens, plus d'horizon de transformation sociale, qui était l'origine de la social-démocratie. La social-démocratie, c'est de vouloir que la puissance publique soit en mesure de corriger les inégalités créées par le marché, de changer le cours des choses. Et donc, partout en Europe, il y a eu cette crise. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je vois ? Vous avez vu, comme moi, ce qui s'est passé hier en Espagne. Tout le monde nous expliquait, en réalité, que le Parti Socialiste, il y a encore 2 ans, on nous disait ça, le Parti Socialiste espagnol était mort, parce que la social-démocratie était morte, que désormais c'était Podemos ou Ciudadanos, qu'il n'y avait plus d'espace pour une social-démocratie. Et aujourd'hui, on se réveille ce matin et on voit que Pedro Sanchez gagne largement les élections en Belgique. Pareil, on nous a expliqué, c'est le PTB, c'est désormais la gauche populiste qui va l'emporter. Qui est l'homme politique le plus populaire de Belgique aujourd'hui ? Paul Magnette. Pourquoi Paul Magnette ? Parce que c'est un socialiste, un social-démocrate, qui a su trouver dans l'écologie politique, eh bien, l'horizon qui va refonder la social-démocratie. Donc nous, c'est ça notre projet. Et ce vent qui se lève en Europe, la France doit participer à ce vent-là, parce que c'est faux. Le choix entre libéraux et populistes, c'est un faux choix. Il reste un élan social-démocrate, les sociaux-démocrates n'ont pas disparu.
Frédéric Seitz. Pour ce qui vous concerne, vous êtes toujours dans les sondages entre 6 et 7%. Alors qu'est-ce qui manque pour que vous bénéficiez de cet élan qui, à vous entendre, traverse l'Europe en faveur de la social-démocratie ?
Déjà, ce qui nous manque, c'est qu'il y ait une campagne. C'est-à-dire que là, on a repoussé la campagne. Bien sûr, je comprends le grand débat, Notre-Dame, ensuite les conclusions du grand débat. Donc, ce qui est important, c'est qu'on parle d'Europe. Moi, j'ai pas envie de faire une campagne qui soit un référendum sur Emmanuel Macron. Mmh. C'est pas ça l'élection.
Il y a eu des débats tout de même à la télévision.
Il y a eu un débat. Il y a eu un débat où on était tous alignés et on devait faire des punchlines d'une minute. C'est très sympathique. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on la France comprenne et les Français comprennent et la classe politique accepte que cette élection, c'est pas juste une élection intermédiaire. Toutes les grandes décisions qui nous concernent, toutes les grandes décisions, ce qu'on mange dans notre assiette, l'air qu'on respire, la manière dont on laisse ou pas des produits qui ne respectent aucune norme rentrer sur notre territoire, la question du libre-échange, du protectionnisme, la manière dont on peut imposer une amende à Google, la manière dont on résiste à Poutine et à l'extrême droite, tout ça se décide à l'échelle européenne. Donc c'est des élections fondamentales. Il faut que ces élections soient précédées par une campagne où on parle d'Europe, d'Europe et d'Europe.
Mais alors justement, Raphaël Glucksmann, ce débat, on a dit, au terme de ce débat, apparemment vous auriez dit que ça n'était pas tellement votre exercice préféré, que vous n'étiez pas à l'aise et à votre place là-dedans. Est-ce qu'un essayiste, un philosophe, à sa place dans ce jeu politique qui est finalement très dur, avec un certain nombre de règles qu'on n'est pas obligé de vouloir maîtriser.
J'ai dit que je n'étais pas à ma place dans ce débat à 12, où on débite des punchlines, et où surtout je note que plus on est proche idéologiquement, plus on partage les mêmes idées, plus on cherche à se tacler. Qu'en gros, le rôle qu'on nous assignait, c'était que moi je devais balancer un tacle sur Yannick Jadot et que Benoît Hamon devait balancer un tacle sur nous deux et que c'était comme ça que ça devait se passer. Moi, je ne conçois pas la politique comme ça. Donc oui, je n'avais pas ma place dans ce débat, mais j'ai ma place totalement en politique. Pourquoi ? Parce que au bout d'un moment, vous expliquez à longueur de livres et à longueur d'émissions de France Culture ou d'autres radios qu'il y a une crise profonde de la démocratie et que désormais tout le monde doit s'emparer de la chose politique. Eh bien, il faut que tout le monde s'en empare. Surtout des gens qui n'ont pas fait carrière dedans, qui n'ont pas passé 30 ans dedans. Parce que moi, ce que je constate depuis quelques semaines, c'est à quel point, en fait, la politique vous blinde, vous coupe du monde, vous empêche de lire, vous empêche d'avoir des discussions avec des gens de manière désintéressée et à la fin, crée des personnels politiques, des personnes politiques qui sont très proche de la sociopathie, c'est-à-dire qui ne sont plus capables d'avoir des relations humaines normales.
Et donnez-nous des exemples de sociopathie.
Non, et ce que je veux dire, c'est que c'est normal. Tout le monde, je pense, entre en politique avec des idéaux. Tout le monde entre en politique en se disant « moi, je vais changer le monde ». Et au bout d'un moment, on se blinde, on se referme.
Est-ce qu'Emmanuel Macron, c'est un sociopathe,
par exemple ? Je vais vous prendre l'exemple d'Emmanuel Macron, qui en plus n'est pas un exemple qui correspond tout à fait, parce qu'il n'a pas fait 30 ans de carrière politique.
Non, il n'a pas eu le temps.
Ouais, voilà, donc il n'a pas eu le temps, il a réussi à être président avant, je le félicite, c'est très bien, bravo. Mais il y a...
Faites attention, parce qu'on va retenir
que vous venez de féliciter Twitter va dire que Macron. Écoutez, il est macronien, alors que j'ai toujours eu la même critique depuis son arrivée sur la scène politique. J'ai juste appelé à voter contre Marine Le Pen au deuxième tour d'une élection. Au premier tour, j'avais soutenu Benoît Hamon. Mais juste, je vais vous prendre un exemple. Sa conférence de presse, il est extrêmement agile et intellectuellement, ça se voit. Il tient 2 heures et franchement, il connaît les dossiers et il parle, il prononce les mots qu'il faut. Il dit je me suis rendu compte de l'épaisseur des vies, j'ai appris beaucoup sur la France. Simplement, l'impression qu'on a, c'est d'un homme sans empathie, en fait. C'est que justement, cette épaisseur des vies, elle lui échappe. Et c'est
bon,
logique.
Là, c'est un procès d'intention.
Non, c'est pas un procès d'intention. Quand on explique à quelqu'un qui se plaint, mais arrêtez de vous plaindre, alors qu'on ne connaît rien, on ne cherche même pas à connaître la misère qui s'exprime face à vous, ça s'appelle un homme sans empathie.
Bon, mais et ce que à l'inverse, ce que la gauche a souvent fait...
On va pas rester très longtemps là-dessus.
Sur l'empathie, parce que c'est un terme intéressant, sur l'empathie, et on a souvent accusé les présidents de gauche, je ne vise personne d'être empathique, mais au-delà de cette empathie, de ne rien faire.
Mais l'empathie, c'est justement, parce que l'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place des autres. Or, il y a un problème, effectivement, dans la gauche. Comment elle s'est coupée des classes populaires, la gauche ? Eh bien, c'est justement, en supprimant cette empathie. Alors, la raison d'être de la gauche, c'était justement de transformer la société dans un sens qui favorise les classes populaires. Elle est devenue un lieu de l'entre-soi.
Vous avez entendu à gauche également les reproches qui peuvent vous être faits par certains de vos compétiteurs. Je pense notamment à Alexis Corbière qui a dit « Raphaël Glucksmann, c'est un certain flou idéologique. Par exemple, moi, j'ai l'information à Alexis Corbière que Raphaël Glucksmann était au meeting de Nicolas Sarkozy en 2007, le 29 avril précisément. Alors, ça a traduit une sorte de flou. Est-ce que c'est vrai que vous y étiez ou c'est une fausse information ?»
J'ai accompagné mon père qui s'appelle André Glucksmann et qui était à ce meeting. On a ensuite écrit un livre où justement je disais mais qu'est-ce que tu faisais à ce meeting, on avait une discussion et qui était une défense de mai 68 contre l'attaque de Bercy de Nicolas Sarkozy qui a fait un discours de campagne où il visait strictement et uniquement mai 68, on oubliait Reagan et Thatcher,
mais mai 68 était responsable Sarkozy,
de,
mais vous étiez
responsable de tout. Et vous savez, moi je vois bien les polémiques sur ce qu'on faisait quand on avait 20 ans. J'ai écrit des livres pour expliquer ma transformation idéologique. J'invite tout le monde d'ailleurs à le faire. Ma transformation idéologique, c'était pas du tout le sarkozysme. C'était...
Vous étiez quand même
la gauche libérale. Voilà. La gauche libérale,
kouchnerienne. Alternative libérale, c'était.
Mais j'ai jamais été candidat à l'alternative. Ça fait partie justement de cette classe politique et des boules puantes. Jamais été candidat aux élections pour aucun parti. J'ai jamais eu ma carte dans aucun parti. Alors, ni au PS, ni à l'UMP, ni à Alternative libérale, ni à Alternative libertaire, ni à aucun parti avant de fonder Place publique. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui ont fondé ce mouvement, ils avaient justement jamais eu de carte nulle part parce qu'ils étaient dégoûtés par la manière dont procédaient et dont vivaient les partis politiques. Moi, ce que j'ai dit, c'est que sur le fond, j'étais un libéral de gauche, c'est-à-dire quelqu'un qui pense que les libertés individuelles, eh bien, c'est l'horizon de la politique. J'ai écrit des livres pour expliquer à quel point la crise de 2008, la montée des populismes et des nationalismes, c'est le résultat de cet échec flagrant de ce logiciel. C'est en fait le résultat de l'abandon de la question sociale et de la question républicaine par la gauche. Et donc moi, je reconnais une évolution. Il faut que les gens pensent en fonction de la réalité, mais simplement pas ces boules puantes là. Moi, je vois bien la violence avec laquelle Monsieur Corbière a parlé. C'est justement ce dont je parlais, c'est-à-dire il y a une forme de surbrutalisation sur des tout petits sujets, alors même qu'on a face à nous des crises existentielles pour nos sociétés.
La cohérence idéologique n'est pas un sujet anecdotique.
Bien sûr, mais quand on écrit 300 pages de livres idéologiques qui expliquent justement comment l'écologie et le social se rencontrent et peuvent redéfinir un avenir et un logiciel de gauche, j'invite tous les hommes politiques à écrire des livres aussi cohérents idéologiquement.
Alors parlons quand même un peu d'idéologie. Justement, la gauche radicale accuse les sociodémocrates, autrement dit vous-même, pas nommé norme, mais malgré tout, c'est votre mouvement qui est visé d'être en quelque sorte les idiots utiles du capitalisme. Est-ce que vous ne pensez pas que ces accommodements que vous souhaitez faire ou que vous souhaiteriez faire sont impossibles à faire précisément, Raphaël Glucksmann ?
Qui a permis les avancées sociales en France et partout ailleurs en Europe ? C'est les bolcheviks ? C'est les révolutionnaires de salon ? Non mais sérieusement, c'est la social-démocratie.
Oh,
c'est la social-démocratie. C'est la social-démocratie. Et moi, je vois bien cette danse du scalp autour du cadavre supposé de la social-démocratie. C'est totalement irresponsable. C'est totalement irresponsable. Et surtout, c'est faux. L'avenir, ça va être un renouveau de la social-démocratie. Moi, je ne pense pas que l'avenir, ce soit la notion inventée par Mouffe et reprise. Ensuite
Chantal Mouffe, la philosophe proche de Jean-Luc Mélenchon.
Et des mouvements d'Amérique latine, ce fameux populisme de gauche. Moi, je n'y crois pas. Je pense qu'il faut défendre justement des transformations dans le cadre des institutions démocratiques en respectant la démocratie représentative. Et que c'est comme ça que la gauche a permis des avancées sociales. C'est pas en faisant des révolutions ou en exaltant la colère contre les institutions. Moi, je pense que la gauche social-démocrate n'est pas morte et que surtout, le mariage entre la social-démocratie et l'écologie, c'est ce qui va justement lui redonner vie, lui redonner sens, parce qu'il faut relégitimer la puissance publique. Ce qui s'est passé, c'est une défaite culturelle immense face aux néolibéraux. Aujourd'hui, on ne voit plus pourquoi l'État pourrait informer une société, pourquoi on pourrait transformer le cours des choses, pourquoi on pourrait revenir sur les inégalités créées par le marché. Et l'écologie politique, si on la prend au sérieux, c'est ce qui justement va rétablir le primat de l'intérêt général sur les intérêts particuliers, le primat de la puissance publique sur les logiques du privé. Et c'est ce mariage-là qu'il faut réussir, et cette élection, à mon avis, c'est l'élection idoine pour réussir ce mariage.
Et alors, justement, si vous réussissez cette élection, que ferez-vous après Raphaël Glucksmann ? Est-ce que cette alliance entre Place publique et le Parti socialiste est une alliance de circonstances ? Est-ce qu'elle est appelée à durer jusqu'à la présidentielle, par exemple ?
Mais elle est surtout appelée à s'élargir. C'est évident que ce qu'il faut faire...
S'élargir ?
Mais bien sûr.
Vis-à-vis de
qui ? Vous savez, il y a déjà... Je vous parlais tout à l'heure d'une forme de violence, mais il y a aussi de l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui négocient déjà pour les municipales et qui, par ailleurs...
Justement, ne soyons pas hypocrites. Dites-nous ce que vous
toutes les forces de gauche vont s'unir aux municipales, probablement. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'ensuite, il faut une union parce que il faut une alternative au libéralisme et au nationalisme. On ne peut pas rester dans ce match-là. La seule alternative possible, c'est une alternative sociale et écologique et qui supposera un rassemblement bien plus grand qu'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Raphaël Glucksmann, tête de liste pour le Parti Socialiste et Place Publique. Nous étions donc un quart d'heure avec vous et en vertu des règles fixées par le CSA, des règles cruelles, mais nous les suivons. Yann Brossa, tête de liste pour le Parti Communiste Français, merci d'être avec nous, avec toujours mon camarade Frédéric Seize et la question rituelle, Yann Brossa, que nous avons posée aux deux autres candidats. Quelle Europe voulez-vous ?
Moi, je veux une Europe qui soit une Europe de justice sociale. On en est aujourd'hui très loin parce qu'on a des traités européens qui gravent dans le marbre deux dogmes. Le premier, c'est le dogme de l'austérité, la fameuse règle des 3% de déficit public qu'on n'a pas le droit de dépasser. Et le deuxième dogme, c'est la concurrence libre et non faussée. On nous a construit une drôle d'Europe dans laquelle l'objectif n'est pas de se serrer les coudes, mais dans laquelle l'objectif est de se tirer dans les pattes. Et donc, je pense qu'il est temps de changer profondément le cours de l'Union européenne. Et je crois que le fait que notre Union européenne traverse en ce moment une crise existentielle nous oblige d'une certaine manière, et que c'est le sens même de l'Union européenne qui est posé. Donc changeons-la, sinon elle mourra.
Frédéric Seize.
On a beaucoup parlé avec les deux personnes, les deux candidats qui vous ont précédé dans ce studio, des traités du traité de Lisbonne qui organise notamment une certaine impuissance du Parlement européen dans la mesure où il peut amender, il peut voter les textes, mais il n'a pas l'initiative des textes qui viennent de la Commission. Est-ce que ça, vous souhaitez, vous, le changer ? Et n'êtes-vous pas, en un sens, candidat à une élection où vous n'aurez pas beaucoup de pouvoir ?
D'abord, ne sous-estimons quand même pas le rôle du Parlement européen, parce qu'on nous a tellement dit que le Parlement européen ne sert à rien. On nous a tellement dit que tout se décide à la Commission européenne qu'effectivement, on finit par se dire pourquoi est-ce qu'on devrait aller se déplacer le 26 mai pour élire des eurodéputés. Ça n'est pas complètement vrai, parce que les directives, elles sont quand même soumises au vote du Parlement européen. Et si une directive est battue au Parlement européen, elle finit à la corbeille. On a quand même quelques exemples qui montrent que les rapports de force internes au Parlement européen, ça compte. Par exemple, le quatrième paquet ferroviaire, celui qui a conduit à la loi sur la SNCF, celui qui fait que malheureusement on va fermer beaucoup de petites lignes de chemin de fer jugées non rentables. Ce quatrième paquet ferroviaire, il est passé à 24 voix près. Cela signifie que si nous avions été un peu plus nombreux au Parlement européen pour nous y opposer, on n'aurait pas eu derrière la loi sur la SNCF et la concurrence du transport voyageurs. Donc ça vaut le coup de s'intéresser à ce qui se passe au Parlement européen. Évidemment que je suis favorable à ce qu'il ait encore plus de pouvoir, mais même dans le cadre de son pouvoir actuel, de ses compétences actuelles, il a un rôle qui n'est pas tout à fait négligeable.
Justement, si on revient à l'évolution de la SNCF, une évolution qui a été décidée par le gouvernement, il y a eu des manifestations et celles-ci ont fait long feu, elles n'ont pas empêché la réforme ferroviaire, Yann Brossa. Tandis que les gilets jaunes, eux, ont obtenu des choses, vous nous direz si celles-ci sont suffisantes ou insuffisantes, mais on voit que les modes de protestation évoluent. Est-ce que du coup, le PCF est encore en phase avec les modes de protestation actuels ?
Oh, d'abord, le Parti communiste a soutenu toutes les mobilisations de ces derniers mois, y compris d'ailleurs beaucoup de revendications portées par les gilets jaunes, que nous portions d'ailleurs avant même que ce mouvement ne se développe. Non, je crois surtout que le gouvernement devrait réfléchir au grand mépris avec lequel il a traité notamment les organisations syndicales. Parce que c'est précisément parce que le gouvernement n'a pas entendu les syndicats, n'a pas entendu la grande mobilisation des cheminots, qui était pourtant très massive, que la protestation s'est fait entendre d'une autre manière. Et donc je crois que la balle est dans le camp du gouvernement et que le gouvernement devrait réfléchir à sa manière de gouverner et qu'on ne pourra pas continuer à avoir des gouvernements qui se succèdent et qui ignorent à ce point les corps intermédiaires, qu'il s'agisse des syndicats ou des élus locaux.
Quelles sont les demandes des gilets jaunes que vous avez soutenues et quelles sont celles qui vous paraissent plus éloignées de ce que le PCF pourrait demander, Yann Brossa ?
Au début, on nous a dit que c'était une espèce de ras-le-bol fiscal qui aurait pu virer à une forme de poujadisme auquel évidemment le Parti communiste ne peut pas adhérer. Assez vite, on s'est aperçu que la question c'était moins le ras-le-bol fiscal qu'une révolte face à l'injustice fiscale. Une révolte face à un impôt qui est devenu de plus en plus injuste parce qu'il pèse sur les salariés, sur les classes moyennes, sur les familles modestes, bien davantage que sur ceux qui touchent de très très hauts revenus. Et donc ça, ce sont des revendications que nous partageons. Le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'augmentation du SMIC, l'augmentation des petites retraites, ce sont des choses que le Parti communiste n'a pas découvert
au détour d'un rond-point et que nous portons depuis fort longtemps.
Mais ces sujets-là ne sont pas de la compétence européenne par définition. Sur le plan européen, dans votre programme, quels sont les deux ou trois points que vous souhaiteriez mettre en avant ce matin?
L'harmonisation sociale est évidemment une question clé, parce que on peut dire que ça ne relève pas du Parlement européen, mais enfin quand même, quand on a une Union européenne dans laquelle on a des pays qui ont, comme nous, un SMIC à plus de 1000 euros net, et puis d'autre part, des pays dans lesquels le SMIC est à 300 ou 400 euros, et en même temps, on organise la concurrence libre et non faussée. Ça veut dire qu'on dit aux travailleurs français, serre-toi la ceinture parce que le Polonais est prêt à travailler pour moins cher que toi. Et on dit aux Polonais, serre-toi la ceinture parce que le Bulgare est prêt à travailler pour moins cher que toi. Donc, quand même, ce fonctionnement nous tire vers le bas et tire les salariés français vers le bas. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, de mon point de vue, c'est celle de l'harmonisation sociale. Nous sommes favorables, c'est une proposition que nous faisons, à un SMIC européen à 60% du salaire moyen, ce qui nous permettrait d'avoir une augmentation des salaires à l'intérieur de l'Union européenne, et ce qui, à mes yeux, est fondamental.
Concrètement, pour la France, ça voudrait dire quoi?
Ça voudrait dire 1400 euros net, c'est-à-dire une augmentation de 200 euros, ce qui supposerait d'ailleurs d'aider...
Ce qui veut dire que Emmanuel Macron a fait une partie du chemin?
Non, parce que ça n'est pas une augmentation du SMIC qu'il a fait.
Parce que le SMIC, il est environ à 1200 euros aujourd'hui, une prime d'activité de 100 euros.
Oui, voilà, c'est une prime d'activité. C'est-à-dire que c'est une aide sociale qu'il faut aller chercher à la CAF. Moi, je crois que ce que demandent les travailleurs de ce pays, c'est de pouvoir vivre dignement de leur travail et pas d'aller mendier une aide sociale à la CAF. En tout cas, moi, je ne conçois pas les choses de cette manière-là.
C'est évidemment uniquement un problème de symbole?
Non, ce n'est pas un problème de symbole. D'abord, c'est un problème très concret qui fait que seuls 50% des SMICards vont obtenir cette aide sociale. Mais surtout, cela supposerait...
Parce que les conditions de ressources du ménage.
Je termine ma démonstration. Cela supposerait que les PME soient aidées. Parce que, évidemment, que les grosses entreprises pourraient assumer une augmentation du SMIC, les petites entreprises auraient plus de mal à le faire. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons que les aides publiques aux entreprises soient concentrées sur les PME et qu'on arrête de donner des aides publiques aux entreprises à des boîtes comme Ford, qui d'abord ont beaucoup d'argent et n'ont pas besoin d'aide, et qui par ailleurs licencient.
Yann Brossa, dans ces conditions, qu'est-ce qui vous distingue de la social-démocratie? Parce que finalement, ce que vous nous dites là, c'est un aménagement, alors il peut paraître excessif, insuffisant, que sais-je, aux auditeurs, mais en tout cas, c'est un aménagement du capitalisme, ça n'est pas une logique de rupture.
Ce qui nous distingue, la cohérence. Le Parti communiste n'a jamais dit... on va pouvoir construire l'Europe sociale avec des traités européens libéraux. Ça n'est pas faire insulte aux sociodémocrates que de rappeler qu'ils ont voté tous les traités européens. Il se trouve que les communistes ont lu ces traités européens. Et c'est précisément parce que nous avons lu ces traités européens que nous les avons rejetés avec constance. Non pas parce que nous sommes anti-européens, mais parce que nous avons perçu très tôt qu'il y a un ADN libéral dans ces traités. Et donc je suis toujours un peu surpris de gens qui à chaque élection européenne disent « et maintenant l'Europe sociale ?» alors même qu'ils ont voté tous les traités européens qui ont bâti l'Europe sur toute autre chose, la concurrence libre et non faussée, les politiques d'austérité. Et donc nous disons, il faut rompre avec la logique de ces traités européens qui nous fait tant de mal.
On voit bien ce qui vous distingue pour le coup de l'invité précédent qui était dans ce studio, Raphaël Glucksmann, pour ne pas le nommer, vous avez parlé des sociodémocrates. Dans ce cadre, qu'est-ce qui vous distingue vis-à-vis des traités dont vous voulez sortir, si on vous entend bien ce matin, de la France insoumise?
C'est difficile à dire parce que je ne suis pas sûr de comprendre quelle est la ligne actuelle de la France insoumise. En tout cas, je peux vous assurer d'une chose, c'est que pour ce qui concerne les communistes, nous ne sommes pas favorables à une sortie de l'Union européenne. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on sorte de l'UE et la situation des Britanniques ne me donne pas envie de suivre le même chemin.
D'après ce que l'on comprend.
J'ai entendu des choses différentes. Bon, en tout cas, nous ne sommes pas favorables à une sortie de l'Union européenne. Nous sommes favorables à une transformation de l'Union européenne, à un affranchissement par rapport aux traités européens. Moi, je pense que la France doit mener sa propre politique et qu'il nous faut cesser de nous comporter comme des bons élèves de la Commission européenne attachés au strict respect des 3% de déficit public.
On est plutôt mauvais élèves sur ce sujet précis.
Précisément parce qu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Et ce qui a conduit Emmanuel Macron à s'affranchir de la règle des 3%, c'était la pression de la rue et la mobilisation sociale. Donc je considère que nous devons mener notre propre politique et que d'une certaine manière... le fait précède le droit et que si nous sommes capables, nous, de mener notre propre politique, de nous affranchir de ces règles, nous contribuerons à ce que l'Europe change.
Et Marx, dans tout ça, Yann Brossa, vous êtes communiste, vous êtes sur France Culture, donc on est un peu entre un intello. D'ailleurs, vous êtes un intello, même si...
Je suis très heureux d'être chez vous parce que ma mère écoute France Culture.
Eh bien, nous saluons votre mère, Yann Brossa, mais... au-delà de ça, les références théoriques du Parti communiste, l'époque où on lisait Marx, l'époque où on appliquait Marx, qu'en est-il aujourd'hui? Quelles sont les références intellectuelles, par exemple, que vous brandissez lors de cette campagne ou que vous pourriez invoquer?
Marx, bien sûr. Et dans une Europe où le taux de travailleurs pauvres est passé au cours des 10 dernières années de 7 à 10%, alors que notre produit intérieur brut est passé de 15 000 milliards d'euros à 17 000 milliards d'euros, le moins qu'on puisse dire, c'est que la lutte des classes, ça existe. Et d'ailleurs, tous les mouvements auxquels nous avons assisté depuis maintenant quelques mois traduisent le fait que la lutte des classes est une réalité et qu'on a eu un réveil des classes laborieuses qui ne supportent plus la situation d'injustice sociale à laquelle elles sont confrontées. Moi, j'assume tout à fait Marx et je pense que ces théories sont plus valables que jamais.
Alors justement, si vous en acceptez les prémices, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout, puisque il y a chez Marx des décisions qui sont sensiblement plus radicales que des seuls aménagements fiscaux, pourquoi ne pas dire par exemple que le Parti communiste souhaite aujourd'hui en finir, si c'est le cas, avec le capitalisme?
Moi je suis favorable au dépassement du capitalisme, simplement je veux me confronter à la réalité. Et je ne veux pas faire de la politique de manière théorique. Moi, si je me suis engagé en politique, si j'ai choisi de prendre ma carte au Parti communiste, c'est précisément parce que je ne veux pas changer le monde simplement en mots, je veux le changer en faits. Et être, comme je le fais aujourd'hui, élu local ou demain élu au Parlement européen, c'est contribuer au fait que les choses changent concrètement. Et moi, c'est en tout cas ce qui me motive, et ça ne m'empêche pas d'avoir des références théoriques, comme Marx par exemple.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Yann Brossat d'avoir été avec nous ce matin, tête de liste du Parti communiste.